C'est la 9e leçon aujourd'hui et je ne suis pas en avance. Je vais donc poursuivre aujourd'hui l'examen de cette figure de la diffamation et du duel, qui est une grosse figure dans cet examen de la littérature comme sport ou de la guerre littéraire au XIXe siècle. J'ai montré la semaine passée comment la notion de diffamation s'était substituée à celle de calomnie dans la loi française en 1819, avec cette grande différence. Dans la calomnie, il y a l'idée de mensonge, de fausseté. Dans la diffamation, les faits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne peuvent être aussi bien faux que vrais. Et afin de faire régner la paix, eh bien, la preuve n'est pas possible. Ce couple de la diffamation et du duel est à mes yeux le symptôme de l'incapacité qui a été celle de l'État à asseoir sa souveraineté au XIXe siècle. Ses prérogatives régaliennes, comme on dit. Et je citais Max Weber avec l'idée que l'État doit revendiquer le monopole de la violence légitime. Je crois que la persistance du duel comme résolution de la diffamation est bien la preuve de l'absence de ce monopole régalien au XIXe siècle. C'est un signe de la concurrence de la justice privée, comme le duel judiciaire ou les guerres privées de l'Ancien Régime jusqu'à l'absolutisme. Alors bien sûr, la calomnie reste le terme courant au XIXe siècle. La diffamation, c'est le terme légal. Et on trouverait de nombreux exemples chez tous les écrivains qui continuent à parler de calomnie plutôt que de diffamation, comme Stendhal, je donnais les exemples la semaine passée, ou Balzac, qui au début de Ferragus écrit « Le calomniateur fut tué en duel ». Et on a donc bien ce couple, calomnie ou diffamation, et duel. Alors la semaine passée, j'insistais sur ce moment, le printemps de 1819, où la diffamation était introduite. Et aujourd'hui, je voudrais montrer qu'il y a une simultanéité très exacte entre les débats à la Chambre sur le projet de loi relative au délit de presse, donc sur la diffamation, et une proposition de loi sur le duel. Alors cette contemporanéité, plus tard, elle sera interprétée comme une corrélation. Mais sur le moment, je crois qu'il n'y a ni corrélation, ni causalité entre ces deux débats qui sont exactement contemporains. Le duel n'est pas évoqué dans le débat sur la loi sur la presse. Je vous rappelle que presse, ça veut dire tout ce qui est imprimé. Et la presse est à peine évoquée dans le débat sur la proposition de loi sur le duel, et elle est évoquée justement pour écarter le lien. C'est seulement après coup, quelques années plus tard, que diffamation et duel sont liés. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1819 ? Eh bien, il y a une proposition d'un député, Jean-Claude Clausel de Couzergues. C'est un ami de Chateaubriand. Il est souvent question de lui dans les mémoires d'outre-tombe. C'est un émigré qui a fait partie de l'armée de Condé et qui a été député dans le corps législatif sous l'Empire, puis qui est député ultra sous la Restauration. Et il fait une proposition en avril 1819 d'une loi sur le duel, en faisant valoir que depuis la Révolution, il n'y en a plus. Les édits de l'Ancien Régime ont été abolis. Et du coup, depuis 1791, le duel n'est plus ni un crime ni un délit, Il n'a pas été introduit dans le code de 1791, il n'existe pas dans le code pénal de 1810, et les seuls articles qui seraient applicables au duel dans le code pénal, ce sont les articles sur l'homicide volontaire. Mais l'homicide volontaire, c'est un crime qui aurait une sanction beaucoup trop élevée pour les cas de duel. Le résultat, c'est que quand un duelliste est poursuivi pour homicide et condamné par une cour royale, eh bien, c'est systématiquement cassé par la cour de cassation, puisque le crime ou le délit ne figure pas au code pénal, et c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc, au nom de la séparation des pouvoirs, puisqu'il n'est nulle part question de façon explicite du duel dans le code pénal, eh bien, cela interdit au juge d'intervenir en l'absence d'une loi. Et ce député, Clausel de Couserg, parle donc d'anarchie partielle. Nous sommes dans un régime d'anarchie partielle, d'usurpation des droits de la puissance publique, puisqu'il s'agit de justice privée. Et Clausel supplie le roi de faire présenter une loi. Alors, il y a plusieurs cas récents qui ont été des morts à la suite de duels pour lesquels la justice ne peut rien. Et son argument, au fond, est très proche de celui du sociologue Max Weber, puisqu'il dit « Une des principales parties du pouvoir souverain est de rendre justice à chacun, de sorte que tout duel est un attentat contre l'autorité du magistrat, souverain ou subalterne. » Tout duel porte atteinte à ce monopole de la violence légitime qui est celui du souverain. Une commission est donc nommée pour préparer une loi et le rapport est confié à un personnage important puisqu'il s'agit du baron Pasquier. Le baron Pasquier est entre deux responsabilités ministérielles. Il a été ministre de la Justice dans le ministère Richelieu, et quelques mois plus tard, il sera ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Decazes. Donc c'est un personnage important, c'est une question importante, et il se déclare pour ce qu'il appelle la répression modérée du duel. En effet, la répression excessive, eh bien, punir le duel comme un homicide volontaire, serait sans effet, dit-il, et c'est ce qui était arrivé avec le relâchement des édits de Louis XIV sous Louis XV et Louis XVI, disait-il. Il y avait trop de lettres de grâce, on obtenait des lettres de grâce pour des duels qui passaient pour des rencontres. Alors il faut faire la distinction entre ici, entre le duel et la rencontre. Le duel, c'est le combat singulier prémédité, la rencontre, c'est le combat singulier et imprévu. On se rencontre à un coin de rue et on se bat en duel. Et les duels étaient toujours présentés comme des rencontres de hasard afin d'obtenir une lettre de grâce sous l'Ancien Régime. Il s'agit donc de définir le duel comme crime ou comme délit, de se demander également si les témoins sont complices. Si c'est un crime, eh bien, les témoins sont les complices du crime. Si c'est un crime, on peut aussi poursuivre pour tentative de crime, donc même s'il n'y a ni blessure ni mort. Et puis ensuite, il faut discuter de la compétence. Quel tribunal sera compétent pour parler des duels ? Et il y a une réflexion, en effet, sur le jury. Est-ce que le délit ou le crime de duel peut passer devant un jury. Le jury est reconnu sous la Restauration parce qu'il est considéré comme un pouvoir donné au père de famille, un pouvoir modérateur des libertés publiques. Et c'est à ce sujet que la comparaison sera faite avec les délits de presse, puisque je vous indiquais la semaine passée que les délits de presse passaient devant un jury d'assises. C'est le jury d'assises qui juge les affaires de presse. C'est une mesure libérale de la Restauration. Et c'est après coup seulement qu'on comparera ces deux délits et la compétence du jury d'assises. C'est dans un livre important d'Eugène Cauchy. Eugène Cauchy, c'est le secrétaire de la Chambre des Pairs, l'archiviste de la Chambre des Pairs, et c'est le frère du mathématicien. Et il écrit un grand livre sur le duel en 1846, sous la monarchie de Juillet, où il insiste beaucoup, c'est lui qui insiste énormément sur ces rapports entre liberté de la presse et duel. Et il écrit « Déjà, le jury avait fait sa première conquête dans le domaine de la politique en obtenant, par les lois sur la presse, l'attribution presque exclusive des délits de presse lorsque la commission chargée de faire un rapport sur la proposition de M. Clausel de Couserc fut conduite à examiner la question de savoir à quelle juridiction la connaissance des duels pourrait être renvoyée. Faudrait-il, comme les délits de presse, renvoyer les duels à un jury d'assises, c'est-à-dire un jury de, non pas de juges, mais de pères de famille. En réalité, quand on regarde le rapport de Pasquier en 1819, eh bien Pasquier ne considère pas du tout que le jury d'assises conviendrait pour le duel, et voilà ce qu'il écrit. « Conviendrait-il de détruire en quelque sorte, pièce à pièce, l'ordre établi dans nos juridictions ? Vous y avez déjà apporté un changement notable relativement au délit de presse. Sans doute ce changement a été justifié à vos yeux par de grands motifs d'intérêt public. De semblables motifs se rencontreraient-ils ici ? Pour les délits de presse, il était possible d'entrevoir une sorte de lutte entre les écrivains et les agents de l'autorité. » Et dès lors, on a cru devoir donner au premier la garantie qui résulte des débats devant le jury. L'idée que tout ce qui concerne la presse, l'imprimerie, eh bien, il faut le confier à un jury de pères de famille. Rien de semblable ne se présente pour les duellistes. On ne peut craindre aucune passion dans les poursuites dirigées contre eux. On devrait plutôt redouter une sorte de mollesse dont les temps passés n'ont offert que trop d'exemples. Les jurés seraient-ils plus que des juges à l'abri de ce dernier inconvénient ? Donc, on ne souhaite pas soumettre les délits de duel ou les crimes de duel à des jurys en pensant que les jurys seraient trop complaisants pour ces duels. Et Cauchy le commente en disant « Les pères de famille n'oseront pas condamner pour duel parce qu'ils pensent que leurs fils, bientôt, commettront eux aussi des duels, se compromettront dans des duels. » Autrement dit, il ne suffit pas de définir le meurtre commis dans un combat singulier comme un crime d'homicide. Il faut aussi trouver, non seulement à le réprimer, à le faire réprimer par des juges, mais aussi à le prévenir. Et c'est ici que la corrélation entre diffamation, la loi sur la diffamation et la loi possible sur le duel est envisagée après coup. L'idée donc que le jury d'assises fonctionnant dans la diffamation pourrait tempérer la violence comme les jurys d'ancien régime. Ce tribunal des maréchaux dont je vous donnais l'exemple la semaine passée dans le Misanthrope de Molière. Vous vous souvenez du sonnet d'Oronte, et Oronte et Alceste sont renvoyés devant le tribunal des maréchaux, le jury d'honneur, afin de prévenir le duel. Donc il y a l'idée qui apparaît qu'un jury d'assises qui traiterait les affaires de diffamation pourrait prévenir le duel, comme le jury d'honneur d'ancien régime. Mais enfin, je dirais que c'est après coup, ce n'est pas en 1819, c'est sous la monarchie de Juillet que la portée de la loi sur la diffamation est ainsi comprise. Ça offrirait à l'offensé un moyen légal de réparer son honneur sans recourir au combat singulier. Et dans l'exposé des motifs de la loi sur la presse de 1819, le ministre disait « De même que l'invention de la poudre avait changé les conditions et la tactique de la guerre, la liberté de la presse devait changer profondément la tactique de l'injure. » Très intéressante comparaison, c'est-à-dire que la presse s'est comparée à la poudre, comme la plume était comparée à l'épée. La presse, c'est une arme de destruction massive, et face à cette arme de destruction massive, il faut trouver un moyen de protéger l'honneur des particuliers contre l'offense publique. Si la presse est libre, alors, pour prévenir le duel, il faut l'équivalent d'un tribunal d'honneur qui juge les affaires de diffamation. Et je dirais que c'est donc bien après coup de ces débats où il y a une simple simultanéité des deux discussions à la Chambre que l'on peut réfléchir à une corrélation naturelle entre répression des duels et répression de la diffamation et de l'injure. Et c'est une thèse qui est bien établie dans la suite du siècle. Je crois que j'ai déjà cité ici l'étude du sociologue, professeur au Collège de France, Gabriel de Tarbes, sur le duel, qui date de 1892, qui est une monographie, l'une des plus importantes sur l'histoire et l'actualité du duel. Et il écrit à ce propos, hein, reprenant littéralement la thèse de la corrélation entre répression de l'injure et répression du duel, si une proposition tendant à combler la lacune de nos lois pénales est repoussée, donc en 1819, sur le duel, la loi du 17 et 26 mai, la loi sur la presse de cette même année sur la diffamation et l'injure, source première de toutes les lois postérieures sur la presse, je disais y compris la nôtre aujourd'hui, la presse, cette arme à longue portée de la calomnie, la loi s'attaque à la racine du mal et vise directement le but à poursuivre sans l'atteindre cependant. Donc on a affaire avec la presse à une arme à longue portée de la calomnie. Ce thème de l'arme massive comparée à la plume et la nécessité d'établir une sorte de tribunal d'honneur moderne, comparable au tribunal des maréchaux, qui rende les duels inutiles pour régler ce type de conflit de diffamation et d'injure. En vérité, ni la Restauration ni la monarchie de Juillet ne réussiront à instaurer un tribunal d'honneur rendant le duel inutile. En 1819, il ne se passe rien. En 1829, il y a un nouveau projet de loi. Cette fois-ci, c'est un projet de loi. C'est de nouveau un moment libéral de la Restauration. C'est toujours dans les moments de libéralisme, lorsqu'on libère la presse, que l'on songe à prévenir le duel. La répression ne suffit pas, il faut le prévenir. Libérer la presse suppose de prévenir le duel. Donc il y a un projet de loi du ministre de la Justice, Portalis, et c'est là aussi une coïncidence, une nouvelle coïncidence avec la loi sur la presse, puisque le ministre Portalis veut abolir la loi répressive, la fameuse loi de justice et d'amour qui avait imposé à la presse le droit de timbre et le dépôt préalable. Donc Portalis dépose un projet de loi qui vise à abolir la censure, à supprimer l'autorisation préalable au profit d'un cautionnement de la presse, et aussitôt après, il dépose un projet de loi sur le duel qui est en fait conforme au projet de 1819 et qui prévoit, en effet, de faire juger, comme le délit de presse et le délit de diffamation, le crime de duel par la cour d'assises, qui est saisie comme un tribunal d'honneur. Alors, bien entendu, il faut ajouter que sous la Restauration, on n'avait pas encore inventé la notion de circonstance atténuante. La notion de circonstance atténuante n'est introduite dans le droit qu'en 1832, sous la monarchie de Juillet. Et donc, c'est ça aussi la difficulté. Comment traiter le duel ? Le duel, c'est un homicide volontaire. Il n'y a pas de circonstance atténuante. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle les cours ont tendance à acquitter. C'est seulement après l'invention de la théorie des circonstances atténuantes, en 1832, qu'on pourra juger les cas d'homicide dans des duels à des peines moindres. Cette loi de Portalis, en 1829, elle est adoptée par la Chambre des Pairs en mars 1829, mais comme vous le savez, le régime se durcit aussi bien sur la presse que sur autre chose dans les derniers mois de la Restauration. Et puisqu'il n'y a plus de liberté de la presse, eh bien, il n'y a plus véritablement besoin de lois qui servent à prévenir le duel. Et la loi qui est adoptée par la Chambre des Pairs ne sera jamais discutée à la Chambre des députés avant juillet 1830. Et puis 1830, c'est une nouvelle épidémie de duels, comme le montrent ces statistiques qui figurent dans l'article de Tarde, qui sont assez intéressantes puisqu'elles nous montrent le nombre des morts par duel entre 1827 et 1843 en France. Vous voyez qu'on est à la fin de la Restauration, en 1828, à 29 morts au moment où on souhaite une loi qui prévienne le duel. Vous voyez qu'il y a une période très agitée, comme l'appelle Tarde, qui correspond au début de la monarchie de Juillet, 25 morts, 28 morts, 32 morts en 1833, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, à partir de 1837, j'aurai peut-être l'occasion de dire pourquoi, une baisse du nombre des morts, 1839, 6 morts, 3, 6, 7, 6 par an. Évidemment, ce n'est pas beaucoup, mais il faut souligner que c'est évidemment une atteinte ou un attentat à ce que les députés considéraient comme la souveraineté du magistrat et du souverain. Pourquoi ces lois sur la diffamation ont-elles eu si peu d'effet et pourquoi la manie du duel sous la Restauration s'est-elle à ce point développée et encore plus sous la monarchie de Juillet ? Sans doute parce que l'autorité de l'État n'était pas reconnue en la matière, et je voudrais en donner quelques exemples. D'abord, les députés eux-mêmes qui faisaient la loi, et notamment la loi sur la diffamation, se battaient beaucoup en duel. Premier exemple que je voudrais donner, c'est celui d'un duel célèbre qui concerne précisément un homme de lettres, Benjamin Constant. Benjamin Constant se bat en duel le 6 juin 1822. Il y a donc une loi sur la diffamation, mais cette loi sur la diffamation ne sert à rien, avec le marquis Forbin des Issarts. Forbin des Issarts est lui aussi député, c'est un ancien émigré, député du Vaucluse, colonel, ultra, qui a publié une lettre injurieuse dans deux journaux, deux quotidiens monarchistes, carlistes, La Quotidienne et Le Drapeau Blanc. Le Drapeau Blanc, c'est l'un de ces petits journaux royalistes cités par Balzac dans Illusion perdue. Il a publié, Forbin des Essarts, un article le jour même. Et le jour même, ils se battent en duel. Ça va donc très vite hein, dans ce Paris de 1820, 22, et il se retrouve au bois de Boulogne. Voici le récit dans Le Constitutionnel, journal libéral, Le Constitutionnel. Hier, 6 du courant, juin 1822, M. Benjamin Constant, ayant demandé à M. le colonel Marquis Forbin des Essarts satisfaction pour la lettre insérée par lui dans la quotidienne et le drapeau blanc du même jour, ces deux messieurs, sans autre explication, se sont rendus dans une carrière près du bois de Boulogne. Accompagnés, M. le colonel de Forbin des Essarts, par M. le général comte de Béthisy et M. de Chamoin, lieutenant des gardes du corps, M. Benjamin Constant, de M. le général Sébastiani et de M. le comte de Girardin, membre de la Chambre des députés. Vous voyez qu'ils sont tous les deux accompagnés de témoins qui sont véritablement des notables du régime dans les deux cas. Là, s'étant placés à 10 pas l'un de l'autre et s'étant assis à cause de l'infirmité qui empêche M. Constant de marcher, ils ont, au signal donné, tiré un premier coup l'un sur l'autre et se sont manqués. M. Benjamin Constant ayant demandé qu'ils recommençassent, ils ont de la même manière tiré l'un sur l'autre un deuxième coup et se sont manqués de nouveau. Les témoins se sont opposés à ce qu'ils tirassent une troisième fois et ont déclaré que les adversaires devaient être satisfaits. Faut-il ajouter que Louis Stanislas de Girardin, c'est l'un des chefs de l'opposition libérale et c'est l'oncle d'Émile de Girardin qui tuera en duel quelques années plus tard Armand Carrel, grand duel littéraire dont je parlerai peut-être un jour. Bon, ce duel est célèbre non seulement parce qu'il met en cause Benjamin Constant, mais parce que c'est un duel dans des fauteuils. Et voici la version du journal des débats, qui est plus centriste, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle nous ajoute, cette version ? Elle nous montre que le combat a eu lieu, comme il était dit, dans une carrière près du bois de Boulogne, en vérité sur la route de la révolte. Vous vous souvenez de cette route de la révolte dont j'ai parlé l'an dernier à propos des chiffonniers, puisque la route de la révolte qui lie la porte Maillot à la porte Clichy deviendra un repère de la chiffonnerie dans ces carrières dans la seconde moitié du siècle. On a donc un débat entre deux députés, un député d'opposition, Benjamin Constant, d'opposition libérale, mais un député ministériel, Forbin des Essarts, et ultra, mais ministériels. Donc eux-mêmes ne font pas recours à la loi de 1819 sur la diffamation, et si les députés ne la reconnaissent pas, pourquoi les administrés le feraient-ils ? Dans l'un des récits, il est dit que ce duel ayant eu lieu dans la fin de la matinée de ce jour, Benjamin Constant vient à la Chambre des députés dans l'après-midi et il est applaudi par les députés libéraux à son arrivée à la Chambre des députés. Voici une illustration de ce duel, une illustration qui est un peu plus tardive, puisqu'elle a l'air d'être signée Philippe Otto. Je n'en connais pas bien la source. Elle est clairement dans un journal plutôt de la seconde moitié du siècle, le duel de Benjamin Constant et de Forbin des Essarts. Duel en fauteuil. Benjamin Constant se déplaçait sur des béquilles depuis plusieurs années et il était donc invalide et néanmoins duelliste. Le second cas que je voudrais évoquer, je dirais encore plus intéressant, il est contemporain et c'est encore un cas littéraire, c'est le duel qui a lieu en juillet 1825 entre deux généraux de l'Empire, le général comte Philippe de Ségur et le général baron Gaspard Gourgaud. Pourquoi se bat-il en duel en juillet 1825 ? Parce que Philippe de Ségur, le général comte Philippe de Ségur, vient de publier un magnifique livre, un livre très important qui comptera longtemps, l'histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'année 1812. C'est l'histoire de la campagne de Russie que Ségur a publiée en novembre 1824, c'est un livre qui aura beaucoup de succès, où la campagne de Russie est racontée de manière épique et romanesque. Et ce livre fera beaucoup parler de lui. Hein. C'est un grand événement littéraire, c'est un récit palpitant, c'est un grand succès de librairie, et il y a de nombreuses réactions pour et contre. On se déchire pendant quelques mois à propos de ce livre qui est comparé à l'Iliade. Il est à la hauteur de l'Iliade pour certains, mais il faut voir, il faut comprendre, on est en 1825, c'est donc 10 ans après la fin de l'Empire, c'est de l'histoire immédiate, tous les témoins sont là, tous les témoins interviennent, et donc Gourgaud écrit une réplique qui est publiée en juin 1825 et qui est intitulée « Histoire de Napoléon Napoléon et la Grande Armée en Russie » ou « Examen critique de l'ouvrage de M. le comte Philippe de Ségur ». Alors, il dit que ça... Il dit qu'il réagit parce que le livre de Ségur, on est déjà à sa cinquième édition au mois de mai 1825, cinq éditions entre novembre et mai. C'est donc en effet un gros succès de librairie pour un ouvrage qui est comparé à un roman de Walter Scott dans un certain nombre de comptes rendus. Alors la réplique de Gourgaud est extrêmement violente. Et elle commence dans l'avant-propos par accuser l'auteur d'être un général de cour, un général d'antichambre, comme on dit. Et voici ce qu'il écrit. Il met en cause ses connaissances de stratégie et de tactique et il dit « Sans doute il serait injuste d'exiger de M. de Ségur, sous le rapport militaire, ce qu'il n'a pas mis dans son livre, il a bien le rang et le titre de général, mais où en aurait-il acquis l'expérience? Tous ses grades, il les a reçus en remplissant des fonctions civiles, auxquelles l'usage du palais affectait des broderies et des épaulettes. » Bref, c'était un général de cour, et Gourgaud, il faut ajouter que Gourgaud, évidemment, c'est un compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène. Hein, c'est l'auteur avec Montholon, juste avant, en 1823, des mémoires de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est donc un inconditionnel de l'empereur. Et en vérité, il a été chargé par les inconditionnels de prendre la plume pour répliquer à Ségur. Et il dit, bien sûr, pour tous les soldats de la Grande Armée qui lisent Ségur, ils ne sont pas dupes. Mais, précise-t-il, les jeunes lecteurs, donc l'inquiétude c'est que les jeunes découvrent les campagnes de la Grande Armée dans ce livre, les jeunes lecteurs ont pu croire que ce général qui s'érigeait en juge du grand homme avait combattu à ses côtés, tandis qu'il n'avait été employé qu'à faire ses logements. Il préparait, comme elle, tous les deux ont été aides de camp de l'empereur, mais Ségur, c'était l'intendance qui préparait le lit de Napoléon. Et cela, je crois, donne le ton. Il faut rappeler que Ségur est le fils d'une grande famille, puisque son père était ambassadeur à Saint-Pétersbourg sous l'Ancien Régime, avant de devenir grand maître des cérémonies de Napoléon, et que son grand-père était le maréchal de Ségur qui avait signé l'édit de 1781, ce Louis XVI, qui réclamait 4 quartiers de noblesse pour devenir officier. Le livre de Ségur est dédié à ses compagnons vétérans de la Grande Armée et Gourgaud se demande, ou déclare, combien sont faibles ces titres à la vétérance et à cette illustre confraternité. Il prend tout de même quelques précautions, puisqu'on est bien dans ce climat de diffamation en ajoutant « Il est utile d'apprendre au lecteur de Monsieur le comte de Ségur que sa plume n'est point celle d'un militaire. Quoique son épée, dans les occasions rares où elle sortit du fourreau, ait été celle d'un brave soldat. » Donc, son épée est parfois sortie du fourreau, mais rarement. En tout cas, il n'y comprend rien à la campagne de Russie. Alors, le livre de Gourgaud est en vente le 10 juillet 1825. Le 11 juillet, il y a déjà une deuxième édition de 3000 exemplaires. Et les deux hommes vont aussitôt s'expliquer sur le pré. Tous deux seront blessés. Voici ce qu'on lit dans le journal des débats du 15 juillet. Un duel entre les généraux Gourgaud et Philippe de Ségur devait avoir lieu aujourd'hui. Les témoins du premier étaient les colonels Duchamp et Marbeau et le général Pajol. Ceux du second, messieurs les comtes de Lobau, le comte de Jean et le comte de Saint-Aulaire. Ces messieurs sont sortis par trois barrières différentes pour aller au terme, hors la barrière du Roule, mais l'autorité ayant été prévenue a empêché cette déplorable affaire en les arrêtant à mesure qu'ils sortaient des barrières. Et le journal des débats ajoute, et c'est intéressant de voir quel est le parti de ce journal modéré, « Monsieur de Ségur, dans son ouvrage, n'a outragé personne, et le livre qui le réfute est un continuel outrage envers lui. C'est un démenti, un cartel en pamphlet. Pour prendre sur un tel ton la polémique, il faut être absolument étranger à l'esprit de liberté qui est le caractère de la France nouvelle. » Donc ceci, écrit en 1825, montre bien qu'il y a un conflit politique entre l'inconditionnel de l'Empire, qui est Gourgaud, et Ségur, qui s'adapte au nouveau régime. Alors, bon, ils n'ont pas pu se battre ce jour-là, mais le lendemain, ils sortiront plus discrètement des barrières. Et voici l'article du journal des débats du lendemain. Je vous invite à faire attention à ce qui est écrit au-dessus, puisque c'est aussi assez intéressant. Monsieur le comte de Boissy quitte la légation de Florence. Il est remplacé en qualité de secrétaire de légation par Monsieur de Lamartine, attaché à l'ambassade de Naples. Et puis le récit du combat. Nous rendrons compte plus tard de l'écrit de Monsieur le général Gourgaud, mais ce que nous croyons devoir faire connaître aujourd'hui et que nous apprenons comme un fait certain, c'est que Monsieur le général comte de Ségur s'étant trouvé offensé des personnalités. Vous retrouvez cette expression que j'ai longuement commentée, ces personnalités, hein, j'y ai consacré une leçon au sens du XIXe siècle, s'est trouvant offensé des personnalités contenues dans l'ouvrage de M. le général Gourgaud, lui en a demandé satisfaction. Hier, la gendarmerie a empêché que cette affaire se terminât. Ce matin, elle a eu lieu. M. le général Gourgaud avait pour témoin M. le général comte Pajol et M. le colonel Duchamp. Ceux qui accompagnaient M. le général de Ségur étaient M. le général comte de Lobau et M. le général comte de Jean, tous deux anciens aides-de-camp de Napoléon. On n'a que des anciens aides-de-camp de Napoléon dans cette affaire. M. de Ségur a reçu d'abord une légère blessure au bras, ensuite le général Gourgaud en a reçu une dans le corps. Alors les témoins ont décidé que le combat était fini et que cette affaire ne devait pas avoir d'autre suite. Dans le Constitutionnel, journal libéral, on apprend que ce combat a eu lieu, puisqu'ils avaient raté à la barrière du Roule, ça a eu lieu à la barrière du Maine. On sort de Paris pour trouver un endroit où se battre, et ce sont tous des officiers de l'ancienne armée. Tous ces officiers de l'ancienne armée. Et ainsi, les deux sont blessés et le combat est levé par les témoins. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux articles nous disent qu'ils ont été tous les deux blessés, mais la tradition voudrait, quand on lit les récits contemporains, les récits d'aujourd'hui, seul Ségur aurait été blessé. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être que ça correspond à cette longue superstition qui voudrait, tout au long du XIXe siècle, ces Tarde qui le fait remarquer, dans la littérature du XIXe siècle, le duel est encore conçu comme un jugement de Dieu. Et on peut supposer que ce sont donc plutôt des Napoléoniens qui ont réécrit l'histoire, puisque selon les histoires que l'on peut trouver aujourd'hui, seul Ségur aurait été blessé. C'est donc une histoire très intéressante que celle-ci, qui a beaucoup intéressé les contemporains. Il en est largement question sous la plume de Stendhal, qui, ce n'est pas par hasard, s'est intéressé à cette affaire. Il l'évoque dans sa correspondance de juillet 1825. Il écrit « Le général Gourgaud, dans sa réfutation de M. de Ségur, a, dit-on, insulté le dit Ségur. On parle beaucoup d'un duel pour demain. » Et Stendhal a rendu compte très longuement des deux livres. Il fait un compte-rendu de l'ouvrage de Ségur. C'est l'époque où Stendhal tient une chronique dans le London Magazine. Et il écrit un article très long de plus de 20 pages sur l'histoire de la campagne de Russie de Ségur dans le London Magazine de février 1825. Ce qui l'intéresse dans ce livre, c'est que Ségur y décrit ce que Stendhal appelle les tares morales de l'empereur, qui lui en fait s'embourber dans cette campagne de Russie, jaloux, haïssant le mérite. Et Stendhal va plus loin encore que Ségur, puisqu'il s'en prend au despotisme de Napoléon comme cause de cette défaite. Alors, Stendhal n'est pas dupe, il critique le style romantique de Ségur, emphatique, qui, dit-il, imite Madame de Staël et ressemble, sous la plume de Stendhal, ce n'est pas un compliment, il dit que le style de Ségur est analogue à celui de Chateaubriand, de Lamartine et de Hugo. Il écrit comme Chateaubriand, Lamartine et Hugo. Bon, et puis Stendhal dit aussi qu'il est un petit peu prudent dans son jugement des vivants qu'il faut ménager. Mais, néanmoins, pour Stendhal, il est un écrivain sui generis et son livre, tel qu'il est un chef-d'œuvre. Lorsque, au mois d'août 1825, il rend compte du livre polémique de Gourgaud, dans le même London Magazine, il n'a évidemment aucune sympathie pour cet ouvrage, mais il est intéressant qu'il nous donne le chiffre de vente du livre de Ségur en août 1825. Selon Stendhal, ce serait 22 000 exemplaires. 22 000 exemplaires, c'est énorme. C'est énorme. En 1825, c'est le chiffre qui est atteint par les romans de Walter Scott. Et c'est un ouvrage qui est systématiquement comparé aux romans de Walter Scott. Et Stendhal dit... Malgré le puf, vous vous souvenez de ce mot puf, qui entourera l'ouvrage de Gourgaud, selon Stendhal, le puf ne réussira pas à faire vendre 1500 exemplaires du panégyrique de Gourgaud. Stendhal est donc à fond pour Ségur, et on peut penser que l'une des raisons de son intérêt pour le livre de Ségur, c'est qu'il y ait beaucoup question de Daru, son cousin, et que le livre sauve en effet Daru, comme le fait remarquer d'ailleurs Sainte-Beuve. Alors, le jugement de Stendhal, c'est donc que c'est un grand livre, un livre d'un écrivain, et que peu importe qu'il ait été écrit avec un désir de flatter le nouveau régime, ou bien de dire la vérité, puisque c'est l'accusation qui lui est faite. C'est un livre qui recevra, et ainsi que toute cette polémique, l'attention de l'Europe entière. Les articles que je vous ai montrés du journal du débat sont immédiatement traduits à Londres, et on trouve, je vous le montre pour mémoire, un récit très détaillé qui est la traduction des articles français dans le London Examiner. On a donc un cas qui me paraît très intéressant, puisque voilà des proches de l'empereur, un fidèle jaloux, Gourgaud, et un homme plus souple, Ségur. On peut remarquer que l'un et l'autre seront sauvés par la monarchie de Juillet après 1830. Tous deux seront faits pairs de France sous le régime de Juillet et tous deux seront faits grand croix de la Légion d'honneur. On peut aussi ajouter que l'un et l'autre laisseront des chefs-d'œuvre plus tard, les mémoires de Ségur et le journal de Gourgaud. Mais c'est évidemment l'histoire de la campagne de Russie de Ségur qui demeurera comme un ouvrage important appartenant au canon littéraire. Et on peut souligner que en 1862, lorsque Baudelaire est candidat à l'Académie française et qu'il écrit un article polémique sur l'Académie française, il critique la candidature d'Albert de Breuil, alors que son père, le duc de Breuil, siège déjà à l'Académie française, mais, ajoute-t-il, le général Philippe de Ségur a pu s'asseoir à côté de son père, le vieux comte de Ségur. Le général était nourri de Tacite et avait écrit l'histoire de la Grande Armée, qui est un superbe livre. Sainte-Beuve disait exactement la même chose, à la même date, dans son article sur les élections. Le vieux comte de Ségur eut la satisfaction de voir nommer son fils, hautement désigné au choix de tous par l'éclatant et national succès de son beau livre de l'histoire de la Grande Armée en 1812. Un beau livre pour Sainte-Beuve, superbe livre pour Baudelaire. Voilà, au fond, pourquoi ces deux héros de la campagne de Russie ne pouvaient pas se porter plainte en diffamation devaient avoir recours au duel. Aucun jury n'était susceptible de discuter ce cas. La plainte en diffamation était inconcevable. Et je crois que ça nous montre bien comment le régime de la Restauration n'était pas en mesure de faire régner cette paix civile et cette paix littéraire qu'il espérait susciter en condamnant la diffamation. Je crois qu'il est important de penser à cette période, qui, à mon sens, est une sorte d'origine de la violence de la vie littéraire française, qui est particulièrement violente. Bon, on dit parfois, c'était déjà le cas au XVIIIe siècle et sous Voltaire, mais il me semble qu'on a ici des cas qui nous montrent que les querelles littéraires sont inséparablement des querelles politiques et qu'elles ont lieu entre des membres du même monde, députés dans le cas de Constant et de Désissart, ou généraux de l'Empire dans le cas de Ségur et Gourgaud. Il y a nécessairement un mélange de la proximité et du débat littéraire qui fait qu'on n'a plus seulement affaire à des contradicteurs, mais à des adversaires et même à des ennemis. On passe très vite de la délibération sur des idées, y compris sur l'histoire, à l'affrontement guerrier. Et je crois que c'est cela qui fait, durant toute cette période, à la fois la métaphore de la vie littéraire et le prolongement de l'activité littéraire. Je vous rappelle cette initiation de Lucien de Rubempré, lorsqu'il pénètre pour la première fois chez Lousteau, qui sera son mentor dans le Paris littéraire. Voici ce qu'on lit. « Sur le manteau de la cheminée, errait un rasoir, une paire de pistolets, une boîte à cigares. Dans un panneau, Lucien vit des fleurets croisés sous un masque. » Une paire de pistolets, des fleurets croisés sous un masque, ce sont les instruments indispensables, aussi bien que la plume de l'écrivain. Alors j'ai dit que c'est ainsi que se déroule la vie littéraire française du moment, mais on peut ajouter que loin de Paris, lorsqu'on est français, eh bien, on déplace cette tendance au duel. Vous avez vu que Lamartine avait été nommé dans ce petit entrefilet. Lamartine est nommé secrétaire de légation à Florence en 1825. Eh bien, quand il y arrive, il doit aussitôt se battre en duel. Pourquoi Lamartine doit se battre en duel? Parce que, tandis qu'il était en congé à Paris, entre Naples et Florence, il a eu la sotte idée d'achever le poème interrompu de Childe Harold, le poème de Byron, interrompu par la mort. Il a donné le dernier chant du Pèlerinage d'Harold, publié en mai 1825, ce qu'il appelle un pastiche sérieux. Pastiche sérieux dans lequel figurent deux vers qui seront pris pour une injure lorsqu'il arrivera en Italie. C'est Byron qui parle avant de partir pour la Grèce où il mourra et qui dit « Je vais chercher ailleurs, pardonne, ombre romaine, des hommes et non pas de la poussière humaine. » Eh bien, lorsqu'il arrive en Italie, cette poussière humaine se rebellera. Et voici ce qu'il écrit dans son commentaire des méditations poétiques, repris dans le cours familier de littérature. « À peine y fus-je arrivé à Florence qu'une vive émotion patriotique s'éleva contre moi. On traduisit mes vers séparés du cadre, on les fit répandre à profusion dans les salons, au théâtre, dans le peuple. On s'indigna dans des articles de journaux et dans des brochures de l'insolence du gouvernement français qui envoyait pour représenter la France dans le centre de l'Italie littéraire et libérale, un homme dont les vers étaient un outrage à l'Italie. » N'oublions pas qu'outrage, c'est un mot qui a le sens d'atteinte à l'honneur, depuis la chanson de Roland. « La rumeur fut grande et je fus quelque temps proscrit par toutes les opinions. Il y avait alors à Florence des exilés de Rome, de Turin, de Naples, réfugiés sur le sol toscan. » Et à la suite des trois révolutions qui venaient de s'allumer et de s'éteindre dans leur patrie. Au nombre de ces proscrits se trouvait le colonel Pépé. Le colonel Pépé était un des officiers les plus distingués de l'armée. Il avait suivi Napoléon en Russie, de nouveau la campagne de Russie. Il était de plus écrivain de talent. Il prit en main la cause de sa patrie. Il fit imprimer contre moi une brochure dont l'honneur de mon pays et l'honneur de mon poste ne me permettait pas d'accepter les termes. J'en demandais satisfaction. Nous nous battîmes dans une prairie au bord de l'Arno, à une demi-lieue de Florence. Nous étions tous les deux de première force en escrime. Le colonel avait plus de fougue, moi plus de sang-froid. Le combat dura 10 minutes. J'eus 5 ou 6 fois la poitrine découverte du colonel sous la pointe de mon épée. J'ai évité de l'atteindre. J'étais résolu de me laisser tuer plutôt que d'ôter la vie à un brave soldat criblé de blessures pour une cause qui n'était point personnelle et qui, au fond, honorait son patriotisme. Je sentais aussi que si j'avais le malheur de le tuer, je serais forcé de quitter l'Italie à jamais. Après 2 reprises, le colonel me perça le bras droit d'un coup d'épée. On me rapporta à Florence. Ma blessure fut guérie en 1 mois. Bon, le duel était puni de mort en Toscane, et Lamartine, lui, comme diplomate, était couvert, mais il dut prier le grand-duc de ne pas proscrire le colonel Pépé. Le résultat, c'est qu'ils devinrent amis d'adversaires. Ils devinrent amis, et c'est seulement à ce moment-là que Lamartine, dit-il, publie son mémoire judiciaire. Et c'est très intéressant puisqu'il se défend à la fois par la plume et par l'épée. Mais la plume doit venir après l'épée. Il faut d'abord utiliser l'épée. Et il écrit « Je ne voulus plaider de la plume qu'après le jugement de l'épée ». Et n'oublions pas que le jugement de l'épée, c'est un jugement divin encore. « Je ne voulus plaider de la plume qu'après le jugement de l'épée et je ne consentis à publier ma défense que lorsque je pus la signer de la goutte de sang de ce duel d'honneur non personnel mais national. » Alors il écrit, donc il se défend par la plume après l'épée, mais si l'épée, comme il le dit, il aurait pu tuer trois fois Pépé, mais il s'est laissé atteindre pour terminer le combat, eh bien, c'est aussi qu'il se sent en tort. Il a commis une faute, et dans ses mémoires politiques, il donne un récit encore plus long de cet épisode dans lequel il revient sur ce pastiche sérieux de Byron qu'il avait commis. Et cette fois-ci, c'est son combat avec Byron qu'il condamne. S'il est coupable, c'est d'avoir voulu rivaliser avec Byron. C'est cette fois-ci le sens de l'agone que j'avais évoqué chez Harold Bloom. C'est là où est sa faute. « J'avais tort, » dit-il dans ses mémoires politiques. « J'étais digne d'admirer et de pleurer ce grand homme, Byron. » Je n'étais pas digne de me mesurer à armes inégales avec son ombre. Le faire parler, c'était prendre l'engagement de l'égaler. Je n'en étais pas capable. Et donc, il a dû se battre de deux manières. Comme il dit, je résolus d'y répondre à Pépé de deux manières, par la plume pour le public, par l'épée pour le colonel. Vous voyez que c'est à ajouter au dossier la figure que j'ai évoquée auparavant de la plume et de l'épée, mais je crois que c'est un beau témoignage d'un état d'esprit, d'une mentalité de noblesse d'épée répandue chez les hommes de lettres dans ce moment-là. J'aurais voulu évoquer, mais l'heure tourne, deux autres cas très célèbre de cette fin de la Restauration, deux morts en duel en 1829 et 1830, juste avant la Révolution de Juillet, parce que ce sont des cas qui seront souvent cités par la suite. C'est le cas d'un jeune poète, Charles Doval, qui est mort en 1822 à 22 ans, qui est mort pour un calembour. Il avait écrit dans un petit journal le lutin que M. Mirat, qui était le directeur du théâtre des variétés, qui lui avait refusé une place à l'entrée, n'était peut-être Mirat sévère, mais ne sera jamais à coup sûr Mirabeau. Monsieur Mirat a considéré que c'était une insulte. Ils se sont battus et le pauvre Doval est mort à l'âge de 22 ans. Et dans ce duel, je voudrais insister, vous avez vu que dans les cas précédents, après deux coups de revolver ou de pistolet ou quelques coups d'épée, les témoins arrêtent le duel. Eh bien, comment ça s'est passé ? Là, le duel commence à l'épée, à la porte de Clignancourt. Mirat est blessé, demande de continuer au pistolet, et les témoins n'arrêtent pas le combat, et Doval est atteint à la poitrine à la quatrième balle. Vous voyez que là, je vous avais cité, je crois, dans l'un des premiers cours, ces mots de Grisier, le grand maître d'armes du XIXe siècle, qui disait... quelque part, dans une affaire, ce ne sont pas les épées et les pistolets qui tuent, ce sont les témoins. Et là, nous avons de bons exemples du fait que ce sont les témoins qui tuent dans les combats. Et voilà ce que disait l'un de ses amis dans la publication de ses poèmes après sa mort en 1830, avec une préface de Victor Hugo, c'est juste avant Hernani. Le journalisme est une arme dangereuse. Journalisme est une arme dangereuse, appelé par sa mission périlleuse à juger les écrits et les actions des hommes, il avait eu le malheur de blesser un amour propre, etc. Bon, il est mort vraiment pour très peu de choses. L'autre cas que j'aurais voulu signaler, c'était celui de Signol. C'est un autre. Il est mort juste en juin 1830, à la veille de la Révolution. Et c'est un personnage intéressant puisqu'il était l'auteur d'un drame intitulé « Le duel », dans lequel un personnage mourait en duel, ainsi que l'auteur d'une « Apologie du duel ». Apologie du duel en 1829, au moment où il y avait un projet de loi sur le duel. Et voici ce qu'il disait du duel. On a une défense du duel. Le duel est intimement lié aux grandes qualités et aux plus belles vertus de l'homme civilisé. Il est l'essence de cette législation morale à laquelle ne peut jamais se soustraire le fripon, le lâche, le calomniateur de bonne compagnie que la pénalité établie ne peut souvent atteindre. Donc la pénalité établie, c'est la loi sur la diffamation, et qui tremble devant cette inflexible législation de convention dont il ne saurait dénier la puissance sans se couvrir de honte et d'opprobre. Alors ces deux cas, Deval et Signol, ce sont deux cas qui sont très souvent répétés, évoqués dans la suite du siècle. Jules Janin leur consacre un chapitre dans son Histoire de la littérature dramatique, et Dumas les évoque tous les deux dans ses mémoires longuement. Dumas était ami des deux, mais enfin Dumas était ami de tout le monde, et il figure partout, il est présent à tous les enterrements. Je voudrais terminer en évoquant quelques instants la figure de Tarde, puisque j'ai dit que Tarde est un personnage. L'étude de la monographie de Tarde sur le duel, publiée en 1892, est un des meilleurs textes sur le duel contemporain. Je crois que j'évoquais la semaine passée ce passage de Tarde, voilà, sur la présence des duels dans la littérature. Si l'on comptait les duels contenus dans les romans, les comédies, les drames qui ont vu le jour en France depuis 10 ans, texte de 1892, donc c'est la décennie des années 1880, on trouverait certainement ce nombre 20 ou 40 fois supérieur à celui des duels qui ont réellement eu lieu dans le public français. Je ne suis pas aussi sûr que si l'on comptait de même tous les adultères et tous les suicides imaginés par nos romanciers et nos dramaturges, leur chiffre s'éleva beaucoup au-dessus de celui des adultères ou des suicides vrais. Les historiens de l'avenir, si par hasard ils nous jugent d'après notre littérature, nous croirons beaucoup plus bretteurs que nous ne le sommes en réalité. Parce que voilà un diagnostic qui montre bien cette particulière affinité de la littérature et du duel. Et la monographie de Tarde, de 1892, repose sur un livre qui vient de paraître. Vient de paraître en 1891, un livre intitulé « Annuaire du duel 1880-1889 », qui est signé du pseudonyme de Féréus. Féréus, c'est en vérité Édouard Dujardin. Édouard Dujardin, que nous connaissons bien, puisqu'il est l'inventeur du monologue intérieur en littérature, le précurseur du courant de conscience utilisé par Joyce dans Ulysse, et l'auteur de cette nouvelle « Les lauriers sont coupés », publié en 1887 dans la Revue indépendante. Et je suis, comment dire, intrigué par le fait que l'auteur, l'inventeur du stream of consciousness, soit l'auteur d'un annuaire du duel 1880-1889, qui est présenté comme le bottin de l'épée et du pistolet, le répertoire des affaires d'honneur. Et dans ce livre, eh bien, l'une des raisons que je trouve, c'est qu'il y a un duel d'Édouard Dujardin lui-même dans le livre de Féréus, ex-directeur de la Revue indépendante, avec M. Victor Jose, collaborateur de la Revue indépendante, altercation à la suite de laquelle M. Dujardin se juge offensé. Même si les romans exagèrent, comme dit Tard, s'appuyant sur les statistiques de ce livre, Tard montre que 2/3 des duels civils entre 1880 et 1889 sont entre des hommes de lettres. Alors les statistiques valent ce qu'elles valent, tous les duels ne sont pas répertoriés, mais sur 598 duels en 10 ans, vous voyez, en gros 60 par an, il y en a 363 qui sont entre des hommes de lettres et 60 entre des hommes politiques. La distinction est sans doute difficile à faire, mais Tard en conclut, cette prépondérance énorme et presque absorbante du duel littéraire est à remarquer. Et il l'explique ainsi par le fait que la littérature, l'homme de lettres, s'est substitué au clerc du Moyen-Âge et à l'aristocrate de l'Ancien Régime comme directeur des esprits. La classe littéraire, dit-il, a emprunté à la noblesse le goût fashionable et aristocratique du duel, mais en le façonnant à son gré, dirons-nous qu'il est devenu, le duel, le risque professionnel du métier de publiciste, ou bien l'un de ses trucs et de ses moyens de réclame. À la fois risque professionnel de la vie littéraire et moyen de réclame dans cette décennie. La classe des hommes de lettres peut être considérée comme le conservatoire du duel parmi nous, et l'on est autorisé à dire, d'après les chiffres ci-dessous, que si les journalistes ne donnaient pas ce fâcheux exemple au reste de la nation, aucun civil en France ne se battrait plus. Donc c'est la littérature qui entretient le duel, et quand on analyse ces statistiques, eh bien, on s'aperçoit que tous ils se sont battus. Catulle Mendès est cité 7 fois dans cette décennie, Mirbeau 6 fois, parfois c'est comme témoin, non pas comme duelliste, Barrès 4 fois, mais seulement un combat en 1889, et Jean Lorrain, etc., Jean Lorrain qui se battra avec Proust quelques années plus tard et changera 2 balles dans le bois de Meudon. Si bien que j'avais, je dois dire, pas remarqué que dans la revue indépendante, revue symboliste bien connue, on a dans chaque numéro cette publicité, salle d'armes, Baudry, professeur, 10 rue Saint-Lazare, et je suppose que c'était là qu'Édouard Dujardin aller s'entraîner de 7h du matin à 11h du soir avant de se battre comme tous ces hommes de lettres de la génération symboliste. Vous voyez que j'ai sauté par-dessus un long moment puisque je rejoins ici l'une des dernières décennies du siècle et je crois que ce n'est pas cette année que je parlerai ni de la monarchie de Juillet ni du Second Empire qui sont pourtant riches de sujets que j'aimerais bien traiter, mais je crois que je voudrais aborder dans les 2 dernières leçons des lettres un peu plus éloignées dans l'alphabet, puisque je n'en suis encore qu'à la lettre D, et que je voudrais tout de même sauter vers la fin de l'alphabet. Je ne sais pas encore ce que je ferai dans les 2 prochaines séances, mais j'irai plus loin dans l'alphabet. Merci.